La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête d'aucun prophète. Elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient les secrets. Elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce, et s'il faut, se corrige et se répand. A écrit Claude Nicolet, historien des institutions et des idées politiques.
Démocratie et laïcité sont deux termes identiques. Qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie n'est autre chose que l'égalité des droits. Or, il n'y a pas d'égalité des droits si l'attachement de tel ou tel citoyen, à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. Dans aucun cas des actes de la vie civile, politique ou sociale, la démocratie ne fait intervenir légalement la question religieuse. Elle respecte, elle assure l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, de tous les cultes, mais elle ne fait aucun dogme. La règle est le fondement de la vie sociale. Elle ne demande pas à l'enfant qui vient de naître et pour reconnaître son droit à la vie à quelle confession il appartient, et elle ne l'inscrit d'office dans aucune église. Elle ne demande pas aux citoyens, quand ils veulent fonder une famille et pour leur reconnaître et leur garantir tous les droits qui se rattachent à la famille, quelle religion ils mettent à la base de leur foyer, ni s'ils en mettent une. Elle ne demande pas aux citoyens, quand il veut faire pour sa part acte de souveraineté et déposer son bulletin dans l'urne, quel est son culte et s'il en a un. Jean Jaurès dans l'Humanité, le 2 août 1904.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canus 102.2 FM à Lyon. Et ce soir, nous allons parler de la laïcité avec une personne qui est en ma compagnie ce soir, qui s'appelle Jules.
Bonsoir.
Bonsoir à toi, Jules. Jules était au départ dans la genèse de l'émission, puisque au départ, au moment de sa création, de sa naissance dans l'œuf, il était à mes côtés pour créer ce petit projet. Voilà. Bon, finalement, les choses de la vie en fait qu'il s'est éloigné un peu, il a d'autres projets ailleurs donc il peut pas être là assez souvent, mais ce soir ça fait plaisir de l'accueillir. Alors ce soir nous allons parler de la laïcité, mais je vous en prie. Et donc avant de commencer toute chose, on va refaire le point un peu sur l'émission et sur Radio Canu. Alors je vous rappelle que pour Les Yeux Grands Ouverts, vous pouvez retrouver les actus de l'émission sur le réseau social Facebook. Vous tapez Les Yeux Grands Ouverts, vous tomberez sur la page, vous mettez j'aime et vous vous abonnez au fil d'actu et vous recevrez dans votre fil d'actu toutes les petites infos sur l'émission. Il y a également une boîte mail, lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, où vous pouvez envoyer vos suggestions, etc., etc. Et il y a le blog où vous pouvez réécouter tous les podcasts de l'émission, avec les émissions qui ont été faites notamment sur l'autodéfense intellectuelle, la Révolution française, le neuromarketing et plein d'autres sujets comme cela. Et n'hésitez pas à aller voir donc sur le lien qu'il y a sur le site de Radio Canu. Vous allez sur la page où est indiqué tout le planning de la semaine avec toutes les émissions hebdo. Le dimanche de 23h à minuit, vous y trouverez Les Yeux Grands Ouverts. Vous cliquez dessus et vous tomberez immédiatement sur le blog de l'émission qui vous permettra de réécouter toutes les anciennes émissions. Et une petite info concernant Radio Canu. Je vous rappelle que Radio Canu fait toujours appel aux dons pour subvenir à ses besoins, pour pouvoir acheter des locaux, puisqu'actuellement Radio Canu est locataire de ses locaux et ne peut pas pérenniser son activité sur le long terme car les loyers augmentent énormément. Donc l'objectif serait de pouvoir acheter. Et pour ça, vous pouvez envoyer vos dons. Alors je n'ai pas le papier sous les yeux parce qu'aujourd'hui j'ai oublié l'adresse, mais vous pouvez aller voir directement sur le site, tout est indiqué, il n'y a aucun souci. Alors ce soir, nous allons parler de laïcité avec toi, Jules. Et tu as recherché vite fait un peu 2-3 trucs et tu voulais nous lire un petit poème.
Bon, 2-3 petits trucs, oui. Je voulais à la base faire un poème, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Et donc, je suis allé feuilleter un peu sur Internet. Et j'ai trouvé un petit poème tout gentil écrit par Robert Casanova.
Et par contre, essaye de te rapprocher bien du micro quand tu parles.
Pardon. Donc, un petit poème tout gentil écrit par Robert Casanova. Et donc, que je vais vous lire avec mon cher ami Rémi.
Tout à fait.
Alors ce poème s'appelle « Vive la laïcité ». Cela fait juste 100 ans que fut enfin votée cette belle loi dont le temps veut ternir la beauté. C'est une version douce, sagement équilibrée. Il incombe donc à tous de bien la célébrer. Elle fut pour nos ancêtres, pendant le siècle dernier, leur façon de soumettre à l'État les clergés. Une de ces grandes conquêtes, longuement arrachées qu'il serait trop bête, à présent, de lâcher. Aujourd'hui, comme la guerre, ce n'est pas un projet à ranger au vestiaire, mais à utiliser. Ce n'est pas un combat, ringard à oublier, mais un moyen de choix qui sert à tout régler. Il n'y a pas que l'école que la laïcité doit tenir un grand rôle, mais dans toute la cité. Pour chaque citoyen, quelle que soit sa fonction, elle est un sûr moyen d'aider sa décision. Les guerres de religion entraînent l'intolérance, et comme elles furent légion dans notre histoire de France, il ne faudrait donc pas encore recommencer ce qu'autrefois cette loi sut faire enfin cesser. Oui, lorsque l'intégrisme fleurit de tous côtés, il nous faut par son prisme défendre notre société. Cette loi a le pouvoir de tout faire rimer, notre liberté de croire avec celle de douter. Elle peut donc, aujourd'hui, très bien nous préserver de ces fanatiques qui voudraient nous en priver.
Elle peut remettre au pas sectes et imams musclés qui sévissent à chaque fois que l'on n'utilise pas. Le communautarisme ou la laïcité, entre ces deux civismes, on change de société. La France de nos aïeux a tranché sans faiblir, et ne pas faire comme eux ne pourrait que nous nuire. Certains dans notre pays voudraient voir toiletter cette ancienne loi ternie, on doit la protéger. Ceux qui la mettent en doute, la jugeant dépassée, prennent une très mauvaise route, sauf s'ils le font exprès. Refuser sa pratique, toujours la critiquer, c'est parfois la tactique pour s'en débarrasser. D'accord pour rajeunir ce qui semble désuet, mais pour l'approfondir et l'actualiser. Pour pouvoir vivre ensemble, dans la fraternité, même si des lois, des fois elles tremblent, vive la laïcité. Elle est moyen chemin, valeur et beau projet, d'égalité enclin, pour vivre en liberté. C'est donc de Robert Casanova.
C'est
Tout à fait.
Je ne connaissais absolument pas.
Moi non plus. On l'a découvert quasiment ensemble. Et voilà, donc on va parler un peu de laïcité ce soir, du concept, etc. Et de nos points de vue, qui seront certainement très variés. Les propos de chacun n'engageront que chaque personne qui les tiendra, évidemment. Et donc, avant de commencer tout ça, on va peut-être expliquer grosso modo ce qu'est la laïcité, et puis après on donnera un peu nos points de vue, etc. Et puis il y aura le torchon, comme habituellement. Je vais commencer vite fait pour expliquer en deux secondes, hein, puis si de temps en temps t'as une petite intervention à faire, tu me fais un petit signe, parce que si jamais tu me coupes au micro, ça va pas être super joli. Alors le concept que nous allons exploiter, donc c'est la laïcité. Il a beaucoup été mis en avant ces derniers temps. En fait, c'est une question qui est vachement récurrente, à cause du moins de l'actualité. Hein. Elle a fait vachement débat ces dernières années. Donc, il y avait déjà sous Sarkozy, on en parlait pour les histoires sur le voile intégral, etc., etc. Alors, savoir si elle était instrumentalisée ou non, ça c'est encore une autre question. En tout cas, elle était devenue un peu sujet de débat. Et dernièrement, elle est revenue vachement, puisqu'on parlait de tout ça à propos de Charlie Hebdo, etc., et suite aux attentats. Donc c'est un peu l'occasion de refaire un peu le point sur ce qu'est la laïcité.
Et juste avant ça, même avec l'histoire des crèches, pour les périodes de
Noël. Oui, exactement, où il y avait eu des questionnements là-dessus aussi, où on se disait, mais certaines personnes trouvaient inadmissible qu'il y ait des crèches, d'autres non, etc. Alors, la laïcité, c'est quoi? Le mot laïque est apparu au 13e siècle, vous allez me dire, là, on fait de l'histoire, mais c'est intéressant aussi, et est issu du latin laicus, qui veut dire commun du peuple. Terme qui était repris au grec, puisqu'il disait laikos, et c'était commun du peuple pour eux, et c'était en opposition à clericos, qui forcément désignait les personnes qui étaient issues du clergé. Cela désigne, comme chacun sait, la séparation donc entre les institutions religieuses, les églises, les mosquées, synagogues, les temples, tout ce que vous voulez, et l'État qui est censé être représentatif de tous ses citoyens.
Donc, on en vient à la définition de la laïcité.
Oui.
Que je peux vous dicter.
Oui, vas-y.
Donc, la conception de la laïcité, c'est donc non féminin. Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement. Le principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 1er de la Constitution française de 1958.
D'accord. Voilà. Alors, ce moyen, en fait, parce que la laïcité, c'est pas un dogme ou quoi que ce soit, c'est un moyen, en fait, pour arriver à faire vivre les gens entre eux, vivre les gens ensemble. Il a été adopté, ce moyen, pour permettre aux institutions d'être représentatifs de tous, de n'importe quel être humain, puisqu'il y avait de plus en plus de religions différentes dans le pays, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, ça l'a permis, comme on en discutait tout à l'heure, la liberté de conscience et de culte pour chaque personne, puisque il n'y a plus de religion d'État, chacun fait ce qu'il veut dans le cercle privé, il a le droit de croire en ce qu'il veut, et ce n'est pas décidé au niveau étatique.
La liberté de conscience absolue dès la naissance même.
Voilà, exactement.
Ce n'était pas le cas il y a quelques...
Même tout à fait, puisque les institutions religieuses avaient un pouvoir très fort sur l'éducation des masses. Elle a été aussi adoptée pour faire baisser les tensions entre les religions, hein, qui faisaient partie de la vie de la cité malheureusement. Dans la communauté des citoyens, il y avait plein de religions différentes, ce qui faisait qu'il pouvait y avoir des tensions. Durant des siècles, il y a eu de grosses tensions entre les religions différentes, qui se sont entretuées et déchirées, comme le petit exemple qui revient souvent et dont on parle souvent et qui est assez frappant, c'est la Saint-Barthélemy, bien entendu, où les catholiques ont massacré des protestants sous l'égide de Charles IX et Catherine de Médicis. Alors au total, on estime qu'il y a eu entre 3000 morts à Paris et de 5 à 10 000 dans toute la France. Alors bien sûr, comme ça remonte à très très loin, les chiffres sont difficiles à déterminer et il est difficile d'avoir des chiffres très précis. Et il y a des personnes qui parlent même de 30 000 morts durant cette Saint-Barthélemy. Donc la laïcité, c'est donc le fait que l'État soit impartial et indifférent face aux divers cultes qui peuvent peupler exister au sein de sa propre population, pardon.
Impartial et neutre.
Voilà, exactement. Et ce ne veut pas dire pour autant qu'il ne les reconnaît pas du tout, hein. Mais normalement, il serait censé ne pas les reconnaître. Mais bon, il veut bien admettre que ça existe, mais lui, il veut absolument pas s'en mêler et ça ne le regarde absolument pas. Il est à ce niveau-là totalement illégitime.
Normalement.
Ouais, bien sûr, on sait tous que ça fait débat à certains moments quand on voit certains hommes politiques prendre des positions particulières. On en reparlera tout à l'heure certainement. À moins que tu veuilles l'évoquer tout de suite, non, je sais pas.
Ma vision.
Non, mais pas spécialement la vision, mais par rapport aux hommes politiques, je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission, on a encore 5 minutes. Alors, après, il y a différentes visions de la laïcité. Il y a celle qui est en vogue en France, mais il y a celle qui est l'une des premières à avoir existé. C'est celle qui est aux États-Unis d'Amérique. Elle date de 1776. Jefferson déclarait J'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'une affaire entre l'homme et son créateur dans laquelle personne, et surtout pas le public, n'a le droit d'intervenir. Donc c'était la première décision laïque, entre guillemets. Officiellement, la religion est séparée de l'État par le premier amendement aux États-Unis, mais on sait tous que c'est très ambigu, parce que dans la culture américaine, il y a énormément de références à Dieu, notamment sur les billets de banque, où il est inscrit « In God we trust », et sur les pièces, où il est écrit exactement la même chose. Et depuis George Washington, il me semble, le président des États-Unis d'Amérique, au moment de son intronisation...
Jure sur la Sainte Bible.
Il jure sur la Bible. Je ne sais pas exactement ce qu'il dit, d'ailleurs. Il doit jurer devant Dieu.
Ou que ce soit même dans les tribunaux.
Oui,
exact. Il demande aux personnes de jurer, il jure sur la Bible, ce qui est assez paradoxal pour un État laïque.
Qui est censé être laïque. Par contre, il me semble que la différence tient juste au fait qu'au moment où il jure pendant les procès, si la personne qui jure est de confession juive ou musulmane, il peut jurer sur un autre livre. Mais il est obligé de jurer sur un livre religieux, en quelque sorte. Donc c'est quand même une conception de la laïcité.
Il fait comment s'il n'est pas religieux ?
Pardon ?
Il fait comment s'il
est ça c'est une très bonne question, il faudra demander aux Américains, je peux pas te dire. Ils font semblant de jurer sur la Bible certainement, ou je sais pas comment ils font, mais en tout cas c'est une vision de la laïcité qui à nous en France nous paraît un peu particulière, mais en tout cas c'est comme ça que les Américains l'appliquent. Et c'est exactement la même chose qui se passe aussi quand les shérifs ou les gouverneurs de certains comtés entrent en fonction, ils font exactement la même chose, ils jurent sur la Bible. Voilà, en revanche, il y a une différence qui est vachement importante et qui mérite d'être soulevée, c'est qu'aux États-Unis, on peut leur donner des leçons de morale sur le fait qu'ils jurent sur la Bible, mais eux, l'État américain, l'État fédéral, ne finance aucun établissement, aucune école de confession.
Religieuse.
Voilà, alors qu'en France, on les subventionne, on en subventionne certaines.
Alors que ça ne devrait pas être le cas.
Normalement, non. Logiquement, si on appliquait à 100% la règle de la laïcité. Qu'est-ce qu'on fait ? On se passe un petit morceau ? Allez, un petit bout. Et après, on va donner nos avis, parce qu'on est des cons, on aime bien donner nos avis.
Voilà.
Voilà. Alors attends, qu'est-ce que nous allons passer ? Nous allons passer un morceau. Tiens, d'ailleurs, ça me fait l'occasion d'en parler vite fait. Daniel Mermet refait une émission pour ceux qui sont au courant sur Internet. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Là-bas si j'y suis. Il s'appelle là-bas.org. Vous vous abonnez, il faut s'abonner. Hein, ou autrement, il faut écouter en ligne directement pendant que l'émission passe. Et il a un nouveau chroniqueur qui s'appelle... comme j'ai plus mon papier sous les yeux, je ne me rappelle plus. En tout cas, vous allez écouter, il a écrit un petit texte, c'est de la chronique rapée sur la loi Macron.
Cette semaine l'annonce, qu'on nous amène n'est pas bon. Pardon mais la loi Macron, c'est quoi cette loi à la con? Réjouissant tant les patrons, réduisant tant les tas de cons. Cerné à devoir se faire berner par ces derniers dons. C'est le métier donc sans pitié quoi qu'on n'en dise les nantis, on la hantise de ces tas de cons. Qu'ils exploitent en souhaitant qu'ils soient gentils, cela va sans dire non pas con. Trariant argant qu'ils ont des droyants, n'auraient même qui y croissant. Rire veulent-ils des croissants avec leur augmentation? Où va-t-on? Se questionnent les patrons, n'a-t-on donc pas le droit au pardon à un peu de considération? La tube l'algus manu avec la loi en adéquation. Tu peux pas plus que ça pour faire la joie de Philippe Aguillon. L'État suce le phallus du MEDEF, lui fait une fellation. L'État use et abuse des lois contre les populations. La ENI, la EMI, le TAFTA et la loi Macron. L'État ruse et accuse les voix s'élevant contre ses actions. L'État serait le dernier bastion contre la loi des patrons. Mais l'État qu'on connaît est fait traître comme Emmanuel Macron. L'État est malhonnête, mais dans un sale état les fractions les plus précarisées et malmenées de la population.
Bah Manu, tu descends.
Tu vas si bas là, je vois pas le fond. Tu descends tant que si on descend, je n'y verrai pas d'affront. Quand je vois ce que ta loi fond, en droit, est-ce que c'est des gars fronts? J'aimerais que ce soit toi qui en fasse les frais. J'aimerais que tu paies le prix de tes actions. J'aimerais que tu te retrousses les manches. J'aimerais que tu bosses le dimanche. J'aimerais que tu bosses de nuit-sanche. OP pour autant de compensation. Que t'y sois pas étanche. Que tu vois ce que tu déclenches. Car tous voient que malgré ta tête tanche, tu te comportes en sale con. Tu ne mérites pas d'ovation. T'obéis aux sommations européennes, américaines. Nique les week-ends sans consommation. Pourquoi se reposer si on peut bosser? Se poser si on peut foncer? Acheter les conneries qu'on sait. Entre autres actions. L'attraction du toujours plus comme mode de production. L'introduction d'une routine qui nous use jusqu'à l'acclimatation. C'est déjà le cas, mais ta loi fera con. Touchera le fond jusqu'à mordre à l'hameçon. Même si nous craquons, travailler plus pour gagner plus, produire plus, Travailler plus pour faire gagner plus de fric au patron. Faire monter le prix des actions, qu'on en vainte l'élévation. Dégus spécule pendant que recule toute raison de célébration. Pour les garçons et filles qui s'échinent dans les usines de fabrication. Des produits inutiles qui culminent malgré notre insatisfaction. On fulmine contre mille et une vies que rien n'illumine. On rumine les mêmes rêves qui subliment, subissent la distraction. Dont on est tous victimes du fait des sollicitations. Incessantes de pubs envahissantes et de leurs invitations. Pressantes et oppressantes à consommer sans modération. On bosse pour se payer des smartphones devenus objets de passion. Pour en revenir à Macron et à sa loi à la con, soutenu par le PDG de Price Ministère, pourtant mystère était Charlie, mais passons. La loi prévoit la réduction, voire la suppression du délai qu'avaient les locataires d'une habitation en cas de congé, vente spéculative, passage à l'action du proprio qui vire la mif pour faire du bif à foison, pour vendre pour un paxon. Une loi que donc nous axons sur l'aide aux patrons et gars conçus vifs de l'exploitation. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Et merci Macron.
Oui, merci Macron. Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu, l'émission du dimanche soir de 23h à minuit. Et c'était ça me déprime de pas me rappeler du nom de ce rappeur parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et qui est avec Daniel Mermet, qui est un nouveau chroniqueur de son émission Là-bas c'est J-Suite, qui est sur internet tous les jeudis de 19h à 21h et qui est réécoutable n'importe quand pour ceux qui sont abonnés, puisque maintenant il faut payer les abonnements comme il n'a plus le droit d'émettre sur le service public. Alors je voulais juste ajouter un petit truc, j'étais en train de regarder pour terminer avec la laïcité aux États-Unis. Et je voulais terminer avec un tout petit truc, c'est que donc la culture américaine est très particulière parce que eux ils admettent qu'ils ont Dieu et qu'ils y croient, mais sans donner de nom de religion à coller à leur constitution. C'est pour ça que c'est un peu ambigu. Mais une étude de 2006 montre que la communauté qui inspire la plus grande méfiance aux USA, c'est pas celle des nouveaux migrants, des homos ou des musulmans ou je sais pas quoi, ceux qui sont habituellement un peu discriminés dans plein d'autres sociétés, mais bel et bien c'est la communauté des athées qui fait plus le peur, enfin qui faisait le plus peur, parce que c'était en 2006. Donc c'est vraiment assez flagrant de la manière dont fonctionne la société américaine et à quel point la vision de Dieu est prégnante et super importante pour eux. Alors là, avec Jules, on va donner notre petit avis sur plein de choses et on va passer le petit jingle. Ah, tu voulais ajouter un petit truc?
Je voulais juste rajouter un petit truc. Ben, c'était même par rapport à ce que disaient nos collègues de l'émission d'avant. Les athées font peur dans le monde, on va dire entier, dans le monde religieux, quel qu'il soit.
Forcément, oui.
Parce qu'ils bah, croient en rien. Enfin, c'est un peu la définition du truc.
Ouais.
Et ça fait un peu flipper. Bah,
on a l'impression qu'ils sont un peu incontrôlables au final.
C'est ça.
Ils sont attachés à aucun texte. Donc, on va passer au torchon et on s'écoute le petit jingle. Il est bien en plus, ce jingle.
Allez.
La rage dans le mic, entre deux repas de soufflé, inutile torchon.
On mélange pas les torchons et les sauts parlants. C'est compliqué.
Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jingle. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Hein.
Bah donc, comme on parle de laïcité, ce torchon, va me permettre de parler de ma vision de la laïcité, tout simplement. Telle que je l'ai apprise et développée au fil de ma vie et de mes expériences, donc.
Uh-huh.
Et donc, je tiens à rappeler aussi que la laïcité n'est pas qu'une loi. Enfin, ça fait partie de ma vision, c'est pas qu'une loi. On peut dire que c'est une philosophie pour certains. Et il y a, dans un cas, on va dire, un peu extrême, pour certains, c'est limite un culte aussi, mais bon, c'est vraiment extrême, là. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour le torchon. Donc, la laïcité est un pilier fondamental de notre pays. Il y a comme un grondement viscéral dans notre pays. Celui-là dicté par les médias en mal d'identité pour nous diriger vers des débats à la limite de la stérilité. Heureusement, encore quelques médias comme la radio laissent vibrer nos idéaux. Et je suis venu là y citer mes quelques mots. Donc pour ma part, nous sommes dans une période où le mot laïcité n'est plus vraiment d'actualité. Je parlerai plutôt de néo-laïcité, enfin, c'est un mot que j'invente plus ou moins, car nous sommes constamment sous une influence politico-religieuse à mon goût. Et donc, que ce soit dans les médias, dans la politique ou même dans notre vie publique et sociale, les différentes religions font partie de notre quotidien. Donc, même pour ceux qui se disent athées ou agnostiques, enfin, moi par exemple, je me qualifie d'agnostique, et ben, la religion fait partie intégrante de ma vie, et même à mon insu. Donc, voilà quoi. Après, j'ai l'impression que nous sommes continuellement poussés inconsciemment à nous mettre du côté de telle ou telle religion par l'information et la désinformation fournie par les médias, enfin, quel qu'il soit, bien sûr. Et nous sommes constamment confrontés aux querelles des différentes confessions, principalement les trois monothéistes.
Ouais.
Bon, pas besoin de les citer.
C'est les plus influentes.
Voilà, voilà. C'est les plus influentes au monde. Et nous avons sous les yeux chaque jour les signes distinctifs de celles-ci. Alors après...
Ça peut être n'importe quoi. Hein.
Ça peut être, voilà, n'importe quoi. Et ce qui m'inquiète personnellement, c'est l'implication aussi maladroite de l'État, donc j'en reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, pour qui la première valeur à la base, la première valeur fondamentale, pardon, est la laïcité.
Normalement.
Donc voilà, je vais vous citer quelques exemples. Donc, pour exemple, un sondage dans Le Parisien demande « Comprenez-vous l'absence de François Hollande à la messe inaugurale du pape au Vatican ?» Donc je parle bien du dernier pape...
Ouais, François 1er, je crois, c'est ça, non?
Je sais plus.
Il me semble.
C'est ça.
Ouais, oui, mais on voit, en tout cas, c'est récent.
Et donc, la réponse est 63% ne comprennent pas contre 37%. Donc, bon, la France à l'époque était représentée par Jean-Marc Ayrault, notre ancien Premier ministre. Le second exemple que j'ai à vous donner, c'est l'intervention de Valls à la Grande Synagogue de Paris en 2012 pour le Nouvel An juif, où il a défendu la liberté du port de la kippa. Moi, là, ce que je dénonce dans ces deux exemples, c'est à la base, l'État doit être neutre. Mmh. Par rapport à, et ses, l'État et ses représentants surtout doivent être neutres quand ils exercent leurs fonctions par rapport à telle ou telle religion.
Exactement.
Or, dans ces, enfin, pour moi, je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Là-dessus, sur les deux exemples que tu viens d'énoncer, en effet, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont dans leur rôle.
Bah, pas tellement. Pour moi, non.
Carrément. Normalement, au moment où a été intronisé le pape, peu importe la religion ou tout ce qu'on veut, il a rien à, aucun représentant du peuple n'a vraiment pas le droit, mais aucun intérêt d'y être, parce que forcément, il se coupe avec une partie de la population, parce que s'il va voir telle ou telle représentation d'une institution religieuse, il en zappe d'autres au passage.
Exactement.
Donc, il est censé être représentatif de tous les gens qui ont voté pour lui, pas que d'une partie qui croit en certaines choses et pas en d'autres.
Tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'a...
Exactement, exactement.
Ce qui fait la beauté de la France, bien sûr, en plus. Donc, voilà. Donc, voilà.
Et je
continue.
Prie.
Pour ma part aussi, la participation à un événement religieux d'un homme ou d'une femme en tant que représentant de l'État, donc ça suit ce qu'on dit, est contraire à cette dite valeur qui est la laïcité, car en tant que représentant de l'État, il ou elle se doit de rester neutre vis-à-vis des différentes religions. Donc, voilà. Après, que je précise, il n'est pas la question de remise en cause en tant qu'homme, mais bien en tant que représentant d'une république démocratique. Mmh. Et laïque.
Normal. Il a le droit de croire en ce qu'il veut, mais quand il représente le peuple français, entre guillemets, hein, c'est pas une histoire de français ou pas français, il représente un peuple qui est censé être laïque et composite. Il doit.
Si on suit en tout cas le
principe de la laïcité.
Le principe directif de la laïcité, strict, on va dire.
Ouais.
C'est ça.
Il doit pas être neutre. Normalement, il doit être neutre.
Parce qu'il y a plusieurs types. C'est dans mon torchon. Il y a différents types de laïcité. Il y a ce qu'on appelle la laïcité stricte. Mmh. Et souple.
Ouais, il y en a des plus souples.
Donc les prises de position d'État quant à certains sujets, comme le voile par exemple, hors niqab et hijab, qui sont les voiles intégraux, sont plus que discutables à mes yeux. Et même si les lois sont passées, car il est dit que tout le monde dans la rue, les centres commerciaux et les commerces est libre de porter un signe distinctif de sa religion. Quand je dis ça, par exemple, même s'il y a une loi qui a été prononcée là-dessus, donc maintenant les femmes ont le droit de porter le voile. Qui s'appelle le. Que je dise pas de bêtises.
Je sais pas du tout. Tu veux dire juste le voile sur les cheveux, c'est ça?
Ouais. C'est le même voile qu'ont un peu les bonnes sœurs.
Ouais, d'accord.
Donc maintenant, c'est autorisé dans la rue. Et encore à l'heure actuelle, des représentants de l'État n'appliquent pas cette neutralité par rapport à ça et discutent. Enfin, ne sont pas d'accord avec ça, plus ou moins. Enfin, c'est assez.
On
sait plus sur quel pied danser, nous, quand on voit ça. Donc voilà. Plus récent encore, le débat donc sur les crèches, comme je te disais tout à l'heure, dans les mairies qui sont des bâtiments d'État public, et dans tout bâtiment d'État public, les signes religieux distinctifs sont interdits. De mon point de vue, les crèches faisant partie intégrante de notre culture, et même si elles sont la représentation de la naissance de Jésus, et donc liées à la religion catholique, et je peux préciser qu'à la base, la fête de Noël est fixée sur une fête païenne, la fête du solstice d'hiver en l'honneur du dieu Mitra pour vénérer l'anniversaire du soleil invaincu. Bon, ça, tout le monde s'en fout. Mais...
Ouais, ok, d'accord. Ouais, non, mais c'était pour dire que Noël n'était pas que catholique, c'est ça que tu voulais dire.
Pour moi, ça devrait pas être interdit. Enfin, les crèches. Après, toutefois, cela rentre en contradiction avec le désaccord que j'ai prouvé tout à l'heure contre la neutralité de l'État.
Exactement.
Donc, c'est là où la laïcité est un peu compliquée à comprendre et à interpréter.
À appliquer.
Voilà. Maintenant, cela me permet d'en arriver à douter de la valeur même de la laïcité, car il faut être de ceux qui prônent une laïcité. Faut-il être, de ceux qui prônent une laïcité stricte et son application stricte par rapport aux lois. Cette laïcité n'est pas entièrement définie par des lois, ce qui laisse chacun libre de l'interpréter comme il le souhaite, suivant ses idéaux. Et qui est le fondement même de celle-ci, la liberté de conscience absolue pour tous, et qui nous dirige donc vers une laïcité dite plus souple. Voilà, c'est un peu le.
Mais c'est un débat à avoir après. Hein. Voilà. Chacun sa vision du truc.
Donc voilà, c'était un peu mon temps.
D'accord. Moi, ce qui concerne la laïcité, je serais plus pour une laïcité, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, beaucoup plus ferme. Hein. Je pense que même si la France a une culture qui remonte à quelques siècles, qui est plus ou moins catholique, parce qu'on sait tous qu'on a conservé certains jours fériés qui sont en rapport avec cette religion-là, je pense que dans les lieux publics, ce genre de choses doit être totalement interdite, proscrite. C'est mon point de vue en tout cas. Les crèches n'ont rien à faire pour moi dans une mairie. Après, ça se fait de plus en plus. Enfin, ça se fait de plus en plus. Ça s'est toujours fait. C'est dommage. Et du coup, je comprends que ça puisse blesser certaines personnes aussi. Du coup, au passage, quoi, qui se sentent pas représentées par des choses comme celle-ci.
Bah, c'est. Enfin, j'ai pas énormément suivi le. Enfin, cette petite crise qu'il y a pu y avoir au période de Noël, mais c'est surtout en plus c'est une association. Enfin, c'est une association de, je sais plus comment elle s'appelle, sur la laïcité en France,
qui a
gueulé par rapport à ça. Quoi.
Ouais, d'accord.
Pas forcément les représentants des différentes communautés.
Ouais, d'accord. Non,
association
mais... mais c'est vrai que sur le principe, je trouve que c'est un peu une.
C'est normal.
C'est
on
un
applique
peu
vraiment les principes de la laïcité,
ça ne devrait pas avoir lieu. On est d'accord. Alors, à mon tour, moi, je vais parler de quelque chose qui est beaucoup plus politique et qui n'est absolument pas en rapport avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je vais parler de ce qui s'est passé dimanche dernier en Grèce. Hein. Tout le monde a plus ou moins suivi l'actualité. Bien sûr, Syriza a remporté les élections. Alors, ils ont emporté les élections législatives en Grèce. Tout d'abord, il faut féliciter le peuple grec hein, pour son courage et son irrévérence. Car malgré toutes les menaces proférées par diverses institutions comme le FMI ou la Banque Centrale Européenne, ou même la Commission Européenne, ils ont tout de même voté pour la gauche radicale. Nonobstant également l'avertissement de Madame Angela Merkel, il y a de cela quelques mois, cette dernière disant un truc du genre, si la gauche radicale passe au pouvoir, la Grèce pourra sortir de la zone euro. Cela n'a pas fait bouger le peuple grec d'un iota, et ça c'est très courageux. L'hypocrisie médiatique et politique qui s'en est suivie est des plus pinocchiesques. Alors c'est un mot que j'ai inventé qui ne veut strictement rien dire.
Peux-tu m'expliquer ça?
Pinocchiesque, c'est la philosophie de Pinocchio, si tu veux.
D'accord.
Alors ça veut dire que, donc à l'exception prête que tous ces retourneurs de veste en puissance qui prédisaient la fin du peuple grec et de l'Europe si Syriza arrive au pouvoir sont plus délicats à démasquer car leur nez ne souffre pas d'hypertrophie si ces derniers profèrent les pires baratins qu'ils soient. Hein. Pinocchio quand il ment ça se voit tout de suite, eux quand ils mentent, si on n'est pas forcément aguerri, on s'en rend pas toujours compte. Alors la tartufferie en est allée à ce point que François Hollande a félicité la victoire de Syriza, hein. Le même Hollande qui aujourd'hui applique cette même politique adoubée par Madame Merkel, qui est en train d'asphyxier la Grèce, un peu comme quand Netanyahou vient défiler pour Charlie Hebdo, hein. C'est l'hypocrisie totale. une fois toutes ces méchancetés dites sur les autres, sur toutes ces personnalités, est venu le temps de la vraie réflexion. Que vont pouvoir faire Tsipras et son gouvernement? Ce dernier était il y a un peu plus de 3 ans pour une sortie de la Grèce de la zone euro, mais aujourd'hui il ne l'est plus hein, dans sa stratégie électorale qui lui a permis de récupérer l'électorat du PASOK, c'est l'ancien parti socialiste, le parti socialiste grec, mais qui est aujourd'hui quasiment mort puisqu'il a cédé à la première attaque de la finance il y a de cela quelques années. Donc il a décidé de rester dans la zone euro finalement, Tsipras. Mais est-ce que c'est réaliste? Syriza peut engager un rapport de force et pour engager une renégociation de la dette, mais la mise en place de sa nouvelle politique qui est entamée est totalement contraire aux traités qui ont été votés. Les augmentations du SMIC, l'arrêt des privatisations de nombreux secteurs. Le gouvernement de Tsipras n'aura donc d'autre choix que de se confronter à Bruxelles et à Madame Merkel. Si leur politique est contraire aux traités, ils devront en sortir. S'ils veulent un rachat de leur dette par la BCE, il faudra de l'inflation, chose que l'Allemagne va refuser. Certainement. Ils n'auront donc pour autre choix que de sortir de la zone euro. Tsipras a-t-il usé d'une stratégie électoraliste pour faire ce en quoi il a toujours cru hein. Peut-être qu'il va finalement pas appliquer son programme et faire ce en quoi il croyait. Ou compte-t-il attendre patiemment que les gauches radicales l'emportent à travers le sud de l'Europe, comme cela risque d'arriver en Espagne et au Portugal, pour créer un vrai rapport de force qui soit changera l'intégralité de la politique européenne, soit créera une scission entre Europe du Sud et Europe du Nord. Hein, c'est un risque qui est à prendre, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Pour ma part, je pense qu'il faut arrêter avec ses dettes. La BCE peut toutes les racheter comme le fait la réserve fédérale américaine. comme le fait la banque japonaise aussi. L'Allemagne n'a pas le droit de tout bloquer dans son seul intérêt. Il faut faire tourner la planche à billets comme le font toutes les économies du monde. Stop à la politique strangulatoire du FMI et de la Banque mondiale. Nous nous retrouvons dans la même situation que l'Amérique du Sud il y a de cela à peu près 10 ans. Les politiques menées aujourd'hui là-bas, notamment en Équateur où le président Rafael Correa a décidé d'exclure les FMI de son pays, sont des politiques de relance anti-austéritaire qui permettent aujourd'hui à l'économie équatorienne d'afficher un insolent 3,1% de chômage. Ça fait rêver. En France aujourd'hui, on en est à, je crois qu'on doit être à 9 et des brouettes pourcentage de chômage. Donc pour un pays comme l'Équateur, 3% de chômage, c'est vraiment pas grand chose. Donc à ce titre, je recommande à tous le documentaire de Pierre Karl qui s'appelle Les ânes ont soif. Et vous pourrez le trouver sur le site de CP Productions. Hein, c'est un documentaire qui parle de Rafael Correa. Alors ne faisons pas bêtement du copier-coller, mais inspirons-nous de ces politiques, virons le FMI, monétisons toutes les dettes européennes auprès de la BCE. Selon l'économiste Jacques Sapir et son groupe de recherche, une telle décision provoquerait une inflation de 5 à 6%. Ça veut dire 5 à 6% d'augmentation des prix pour que l'on retrouve tout notre investissement public, notre sécu, nos retraites, notre éducation nationale, nos hôpitaux, notre EDF, notre poste, etc., etc., et j'en passe. Qui peut être contre cette décision, sachant, on le sait tous, que le SMIC et le reste augmentera derrière pour suivre l'inflation. Cela va en faire bondir certains, qui seront certainement pas d'accord avec moi, mais tous à vos, je pense qu'il faut aller tous à vos bulletins de vote pour donner les clés à ceux qui nous rendront notre souveraineté, et s'ils échouent, et qu'ils sont récupérés par le système, peu importe, s'ils nous ont donné la possibilité de changer les institutions, nous, le peuple, on se chargera du reste. Voilà, c'était mon petit avis sur la crise, enfin la crise, espérons qu'elle arrive au terme, mais c'était mon petit avis sur la Grèce.
Merci, j'avais pas du tout suivi les événements des derniers temps.
Bah voilà, ouais.
Je vais me remettre à la page.
Eh ben, on va se passer un petit morceau. Qu'est-ce qu'on va se passer? Tiens, c'est une bonne question ça. Je vais essayer au pif,
c'est
parce que là j'ai pas
c'est
les.
Toi, attends. Le patron.
Non, dis pas ça. Un truc cool, un truc sympathique. Allez, un petit morceau Skip the Use, le seul morceau qui chante en français. Il est plutôt sympathique, on s'envoie ça. Tout de suite, je voulais dire.
Je suis venu te dire, faut être heureux. Alors arrête de courir et de croire que tu iras mieux. Je suis venu te dire faut être heureux. On n'a qu'à sourire puis penser que c'est qu'un jeu. Dans mon canapé, une bombe devant les yeux. Un camouflé, un mensonge pour croire en Dieu. Et que j'ai vomi mes rêves trop pieux. Je suis juste venu te dire, faut être heureux. Y'a des paroles en l'air, un souffle, des gens hargneux. Du vent, des idéaux saisis au vol pour aller mieux. J'ai cru voir la mer. Oh mon Dieu, c'était somptueux. Te dire faut être heureux. On lève nos verres à tous ces gens parfaits. Cupide a servi au système qui les paie. On crie notre haine aux yeux de la justice. On marche solidaire mais finalement on sait qu'on n'y croit plus. Un jour, ça va te péter. J'suis venu te dire, faut être heureux. Rien à foutre, tu sais, j'veux le lire au fond de tes yeux. Je suis venu te dire, faut être heureux.
tu veux. C'est des conneries, la vie elle est belle et c'est tant mieux. Je suis venu te dire, faut être heureux, faut être heureux.
Les yeux grands ouverts sur Radio Canu, il est 23h43 et vous nous écoutez toujours. Nous parlons ce soir de la laïcité, donc il y a Julio et moi-même ce soir.
C'est ça.
Alors nous allons reprendre un peu le fil de... Bonsoir, enchanté. De ce que nous étions en train de raconter. Là, donc j'ai parlé un peu de la laïcité, on a parlé déjà de la laïcité en France depuis tout à l'heure, hein, mais on n'est pas forcément rentré dans tous les détails. J'ai parlé un peu de la laïcité aussi aux États-Unis, comment ils la mettaient en place, pourquoi en place, c'était un accent bizarre. Comment ils la mettaient en place et comment ils voyaient les choses. Leur vision est un peu plus ambiguë que la nôtre par certains aspects. Mais certains considèrent qu'en France, la pratique de la laïcité reste particulière. Il y en a certains qui disent qu'elle est beaucoup plus radicale qu'ailleurs. Parce que la France s'est heurtée à de très nombreux affrontements.
Bah alors.
C'est compliqué. C'est très compliqué ce soir. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, parce que souvent certains aiment à dire que la France est la fille de l'Église, etc., etc. Ce qui est pas totalement vrai d'ailleurs. Mais c'est qu'il y a eu beaucoup d'affrontements sur le territoire français, entre notamment les personnes qui s'affiliaient à la philosophie des Lumières, aux cléricaux, aux protestants, etc., etc. C'est aussi pour ça que la France a été obligée d'opter pour des décisions beaucoup plus radicales qu'ailleurs, car les affrontements avaient lieu directement sur le territoire français entre les personnes de confessions différentes. Alors normalement, l'État ne devrait reconnaître aucune religion, hein, si on applique un peu ce qu'est la laïcité, ce qu'elle devrait être. Sauf que l'article de la loi de 1905, le premier article, stipule que l'État garantit l'exercice des cultes en même temps qu'il ne les reconnaît pas.
Je suis pas d'accord. Pourquoi l'État ne devrait pas reconnaître les cultes?
Parce que il y a une séparation entre l'Église et l'État, tout ça. Entre l'Église, entre la synagogue, tout ce que tu veux, tous les.
Mais qu'il y ait séparation entre l'État et la.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans le principe, ne devrait pas les reconnaître, mais il est obligé de s'en occuper parce que la première loi, premier article dit qu'il garantit l'exercice des cultes. Donc il est obligé de plus ou moins les protéger, mais il est censé ne pas les considérer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, mais en tout cas c'est le principe même de la laïcité, de cette loi de 1905. Alors pour certains, cette conception est radicale, puisqu'elle suit un siècle et demi d'affrontement entre la pensée des Lumières et le clergé, mais l'histoire est très très longue, et on sait que l'histoire a été douloureuse entre le clergé et les révolutions, notamment en 1789, où la pensée des Lumières s'est heurtée à la pensée religieuse, et on a eu... c'est la première d'ailleurs constitution qu'il y a eu qui était laïque en France lors de la Révolution française, puisque les premiers articles garantissaient la liberté du culte et ne reconnaissaient aucune religion à l'État.
L'article 10 établit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu... Ah, pardon, excusez-moi. L'article 10 établit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Exactement. Alors donc c'est une des premières raisons, mais aussi à l'époque ça s'est fait dans une volonté de séparer l'Église et l'État, mais surtout, et c'est là où ça a été beaucoup plus offensif qu'ailleurs peut-être, c'était de diminuer l'influence politique de l'Église, parce qu'à l'époque l'Église avait une influence politique énorme et même un pouvoir financier énorme, puisqu'on payait des impôts, etc., aux seigneurs, etc., et que l'Église en elle-même ne payait pas d'impôts sur le territoire français, ce qui a provoqué ce que vous savez par la suite, pour renflouer la dette de l'époque, eh bien on a décidé de nommer fonctionnaires tous les prêtres et de saisir tous les biens de l'Église. Et donc ça a engagé ce qu'on appelait derrière les prêtres réfractaires, les prêtres qui ont refusé de jurer sur la Constitution.
C'est avec le Concordat, ça ?
C'est juste avant. Juste avant, sous la Révolution. Voilà, alors ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la laïcité s'appliquait dans la France métropolitaine, c'est-à-dire la France, le territoire français classique. À l'époque, il y avait des empires coloniaux, qui était notamment en Afrique du Nord, etc., etc. Mais les lois sur la laïcité ne s'appliquaient pas là-bas. Ce qui fait que les personnes qui ont subi, pour certains d'ailleurs d'entre eux, ont subi les vagues d'immigration, lorsqu'ils sont arrivés en France, se sont heurtés à cette loi qui n'existait pas chez eux, même s'ils étaient déjà censés être français. Ce qui a donc eu pour raison, pour effet de les perturber un petit peu.
Chose qui est encore d'actualité aujourd'hui.
Oui.
Que ça soit dans un département de la France ou dans une région que tu m'as dit tout à l'heure,
l'Alsace-Moselle.
L'Alsace-Moselle, qui est encore sous le Concordat de 1801, si je me trompe pas, et établi sous Bonaparte. Et aussi, j'ai lu que dans les Dom-Tom, l'application de cette
de la laïcité
n'est pas du tout la même suivant les Dom-Tom. Je n'ai pas les papiers sur moi, donc je ne pourrais plus vous dire exactement, mais je sais qu'il y a un dom-tom qui est sous les influences musulmanes, là où l'État... Et il y en a un autre, c'est sous l'influence chrétienne, où l'État subventionne...
Subventionne certaines... et tout. D'accord, ok. Moi, je ne savais pas du tout.
Ce que je viens de dire, excusez-moi.
D'accord. Non, mais je ne savais pas, je n'étais pas du tout au courant. Donc cette loi de 1905, là, on est en droit de se poser des questions, parce que on est souvent en train de brandir la laïcité comme une des conditions au bon vivre ensemble. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'en fonction des endroits sur le territoire, elle ne s'applique pas de la même manière, comme en Alsace-Moselle ou comme à d'autres endroits, visiblement, comme tu viens de le dire. C'est également ce qui rentre dans le débat par rapport aux caricatures qu'il y a eu dernièrement. Il est constitutionnellement autorisé de faire des caricatures, puisque l'État ne reconnaît pas, n'est pas religieux. Cependant, il est interdit de faire des caricatures selon la loi qui existe en Alsace-Moselle, puisque la loi sur la laïcité n'existe pas. Donc, en fait, c'est totalement ambigu, le discours qui est tenu à l'heure actuelle par nos gouvernants. Il ferait mieux de s'occuper de faire appliquer la loi pour tous et de la faire changer en Alsace-Moselle plutôt que de brasser du vent comme ils font souvent.
C'est un point de vue.
Ouais, c'est la question.
C'est là où moi je rentre un peu en désaccord avec toi, c'est que pas sur l'Alsace-Moselle, parce que ça serait bien que ça soit pareil pour tout le monde. Après, ce qui fait un peu la beauté pour moi de la laïcité, c'est que ce n'est pas une loi stricte. Et toi, par exemple, qui es plus pour la laïcité stricte, ce qui est sympa, c'est comme je disais tout à l'heure, qui est le fondement
qu'elle puisse être assouplie,
c'est la conscience absolue de soi et chacun libre de faire ce qu'il veut et de l'interpréter à sa manière aussi. Alors il y a une ligne directrice qui est là, c'est le respect des religions, c'est ne pas l'imposer aux autres et tout, mais de faire des lois trop strictes, ça en reviendrait à enlever cette liberté de conscience qu'on peut avoir par rapport à ça.
En tout cas, c'est ton point de vue.
Je sais pas si je suis très clair.
Je pense qu'on a compris. C'est ton point de vue, il n'y a pas de souci. Alors, par exemple aussi, la laïcité, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé. Elle s'exprime de plusieurs façons. On parle de la liberté de culte et de la séparation de l'Église et de l'État. Mais c'est surtout qu'on a évoqué vite fait que dans les établissements qui appartiennent à l'État, comme les mairies et les choses comme ça, il est interdit normalement de montrer les signes religieux. Mais aussi, dans les écoles, et tout représentant de la fonction publique, normalement, n'a pas le droit de brandir n'importe quel signe religieux qu'il soit, un voile, une croix ou tout ce que vous voulez.
Et d'autant plus dans les écoles, de porter des signes religieux et je vais pas trouver mes mots, de parler au nom d'une religion.
Ah oui, voilà. De faire du prosélytisme, tu veux dire.
Oui, voilà.
Exactement, ouais. Et normalement, même en des termes politiques, c'est interdit. On n'a pas le droit d'influencer, même politiquement, quand on est un employé de la fonction publique, il me semble. Enfin voilà, oui, parce que tout à fait, en fait, l'État désigne des représentants, donc des fonctionnaires ou n'importe lesquels, qui sont chargés de représenter tous les citoyens français, quelles que soient leurs obédiences religieuses. Et donc forcément, si on commence à brandir des signes religieux quand on occupe une fonction représentative de tous les Français,
on n'est plus neutre.
On n'est plus neutre et on ne représente plus tout le monde.
Et on n'est plus laïque.
Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, et on pourrait mettre en exergue un autre aspect, expliquer pourquoi la laïcité elle sert. Je l'évoquais tout à l'heure vite fait quand on était tous les deux. C'est tout simplement le principe de la séparation des pouvoirs, et on pourrait l'évoquer aussi lorsqu'on parle du pouvoir de la finance et du pouvoir politique, qui souvent sont en bisbille à certains moments, mais qui sont bien copains à d'autres. Et notamment ce qui se fait beaucoup entre les pouvoirs journalistiques, médiatiques et le pouvoir politique. Normalement, ils sont sont censés être plus ou moins séparés, même si ce n'est pas acté dans la Constitution. Mais ils ne sont pas censés s'influencer les uns les autres, donc c'est le même principe.
Alors qu'on sait très bien que maintenant, certains médias sont sous la direction de personnes qui sont au pouvoir.
Exactement, ou qu'il y en a certains qui sont plus ou moins potes. Il y a des journalistes qui mangent avec certaines personnalités politiques.
Ou de la même famille.
Peut-être, voilà, exactement. Ouais. Et qui sont mari et femme, par exemple. Voilà, ça se fait aussi. Pas mal. Donc voilà, après, ça aussi, ça peut
le
poser question.
Actuel,
ouais, voilà, ouais, exactement. Il était avec une journaliste. Donc la question n'est pas de dire qu'on veut interdire au vent de tout faire, hein, mais c'est qu'on peut se poser des questions quant à l'impartialité de beaucoup de journalistes qui ont des relations très très ambiguës avec le pouvoir politique. Et c'est un peu le même principe pour la laïcité. On veut que les hommes politiques n'aient aucun lien direct avec toutes les représentations religieuses. C'est pour ça que quand on voit certaines personnalités politiques aller manger au dîner du CRIF ou aller rencontrer le pape ou les choses. Et ben on peut trouver que c'est totalement hors contexte et que c'est même malsain pour la vision qui est censée être prégnante dans la société française de la laïcité.
Et on nous demande surtout à nous, citoyens, de respecter ce genre de règles et de principes.
Pour le bien-être commun.
Pour le bien-être commun. Alors que
ces hommes-là ne le font pas forcément.
Voilà.
Et ne donnent pas vraiment le bon
c'est
exemple.
À eux de montrer les bons exemples.
Et surtout, ils sont censés nous représenter en plus.
C'est ça.
Donc voilà. Et ben voilà, hein, je crois qu'on a fait un petit peu. Hein ?
Non, je disais musique.
Ah oui, on va se passer un petit morceau, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a qui nous pend au nez ce soir ? Donc on s'est passé tout à l'heure le petit morceau de Macron. Et on va se passer. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être cool ça. Ah, c'est un petit morceau de Alain Souchon qui s'appelle Et si le ciel était vide ? On va passer ça, c'est cool.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. De temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et ces hommes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de s'y bouiller. Et l'Angélus, l'hymne qui résonne.
Les yeux grands ouverts sur Radio Canu, vous nous écoutez toujours, il est 23h58, on arrive au terme de l'émission.
C'est la fin. Hein.
C'est la fin, c'est terminé.
D'amour.
Oui, oh, bien sûr, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui était beau et tes cheveux.
Bon, merci, t'es sans soi là, avec ton t-shirt.
Et donc voilà, après cette émission avec du débat, puisque apparemment on n'a pas les mêmes points de vue avec notre ami Julio, c'était intéressant. Pour les yeux grands ouverts, vous nous retrouverez la semaine prochaine encore de 23h à minuit. Le sujet sera certainement la télévision. Jules devrait prochainement revenir dans l'émission,
oui,
en discuter
bien
ensemble. Voilà, je rappelle donc toutes les actus et les infos de l'émission. Vous pouvez retrouver Les Yeux Grands Ouverts sur Facebook, vous tapez le nom dans la barre de recherche et vous devriez tomber sur la page de notre émission. Vous mettez j'aime et vous aurez toutes les actus dans votre fil d'infos. Vous avez exactement également le blog pour écouter tous les podcasts sur les sujets qui ont été faits dernièrement.
Et allez-y, c'est très intéressant.
Ouais, mais merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet dernièrement? Il y a eu le neuromarketing, la télévision, etc. La Révolution française, machin, patin, couffin. Les médias, il y a eu 4 émissions sur les médias qui étaient très complètes, je pense, aussi. Donc n'hésitez pas à réécouter tout ça. Il y a toujours la campagne de soutien pour Radio Canu, donc n'hésitez pas à envoyer vos dons, allez voir sur internet, tout se trouve sur internet, notamment le lien aussi pour vous ramener jusqu'au blog de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Vous allez sur le planning, vous cliquez sur Les Yeux Grands Ouverts et vous serez redirigé directement sur le blog. Il y a l'adresse mail lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, tout au pluriel, hein, Les Yeux Grands Ouverts. Et vous n'hésitez pas, surtout, vous nous faites tourner des petites infos et tout ce qu'il faut, et on sera ravis pour tout ça. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée.
Moi de même, ravi d'avoir participé avec vous à cette première émission, pour moi en tout cas.
Ah bah, c'est très gentil à toi.
Je l'espère revenir très vite.
Bah, pourquoi pas. Bonne soirée à vous tous. Ouais, bonne soirée à vous tous et bonne nuit.
Bisous, bisous.
Et à la prochaine, bisous, ciao. Plantuée.